at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Il me semble important de vous dire qu'il s'agit de notre deuxième enregistrement pour cet épisode. Suite à quelques petits problèmes techniques, nous avons dû nous réunir une nouvelle fois, un peu en urgence, et je me permets de le préciser parce que ça va avoir deux conséquences sur l'émission de ce soir. Premièrement, Cindy ne sera malheureusement pas avec nous, elle ne pouvait pas se libérer pour cette seconde captation, mais vous entendrez bien sûr sa chronique qu'elle a pu nous faire parvenir. Et ensuite, deuxième point, le blind test ne sera pas orchestré par Lys comme c'était prévu, car on a déjà entendu tous les morceaux qu'elle nous avait sélectionnés lors du premier enregistrement, et donc on connaît déjà toutes les réponses. Ce sera donc, exceptionnellement et en exclusivité, notre réalisateur et monteur bien-aimé Lazare qui se chargera d'animer le blind test cette fois-ci, on le retrouvera à la fin de l'émission. Ceci étant dit, pour cette avant-dernière émission de la saison, nous accueillons parmi nous Clémentine Plissonnier. Salut Clémentine, et merci de te joindre à nous ce soir.
Salut, merci pour l'invitation.
Tu es game et UX designer indépendante, tu travailles en ce moment avec le studio Monkey Moon sur leur prochain projet qui s'appelle Flataille, et tu es aussi cofondatrice du très chouette collectif Mauvaise Herbe qui cherche à valoriser et protéger la diversité des expertises dans le jeu vidéo. Et ensemble, pendant l'entretien, nous aborderons la question du handicap et surtout celle de la représentation du handicap dans le jeu vidéo. Mais avant ça, nous retrouverons nos chroniqueuses et chroniqueurs habituels, à commencer par Lys, qui, comme d'habitude, tissera des liens entre jeux vidéo et littérature, en nous parlant cette fois-ci de Witchwood. Bonsoir Lys.
Bonsoir tout le monde.
Après ça, nous entendrons la chronique de Cindy, et ce sera ensuite Alexandre qui s'emparera du micro pour nous vanter les mérites des Gardiens de la Galaxie. Salut Alex.
Bonsoir, alors les mérites, je sais pas trop, mais c'est pas mal.
On verra ça, tu nous en parleras plus en détail. Et après l'entretien, ce sera au tour de Ash de prendre la parole cette fois-ci pour parler du dernier jeu de CD Projekt et se poser cette question toute rhétorique, Cyberpunk 77 est-il raciste ? Salut Ash.
Bonsoir, la réponse va vous étonner.
je n'en doute pas. Et enfin, comme toujours, la mission s'achèvera sur le blind test qui, comme je le disais, sera mené par Lazare. Et je précise que le blind test du premier enregistrement avait été remporté haut la main par Clémentine, on verra si elle parvient à réitérer l'exploit cette fois-ci. Bref, il est temps maintenant de se lancer. Lys, je te laisse la parole pour ta chronique.
En fin d'année 2021 est sorti le jeu Witchwood, créé par le studio Alien Trap. On se réveille dans la peau d'une sorcière vivant au fond des bois, sans aucun souvenir de ce qui nous est arrivé auparavant. On découvre que s'est introduit chez nous une chèvre démon. Celle-ci nous demande de remplir un contrat avec elle. Elle souhaite récupérer 4 âmes malveillantes pour réveiller une jeune femme endormie. En échange, elle nous rendra nos souvenirs. Witchwood mêle le jeu d'aventure et de craft où l'on parcourt différents niveaux, tous très colorés et liés entre eux par un hub central. Il n'est pas une adaptation à proprement parler, mais on y ressent de fortes influences littéraires, car Witchwood s'inspire en tout point de vue des contes de fées et des fables, que ce soit dans son écriture ou son style de jeu. Le début de l'histoire s'inscrit déjà dans une dynamique de conte, avec cette fameuse première phrase « Il était une fois ». Notre personnage a perdu la mémoire et devra se plier aux exigences, aux quêtes imposées par la biquette démoniaque, pour parvenir à ses fins. Il y a aussi cette mystérieuse jeune femme endormie dans un temple, allongée dans un cercueil de cristal et entourée de roses. Une image bien connue. Qui est cette femme? Pourquoi la chèvre veut-elle la réveiller? Pour répondre à ces questions, nous devrons donc partir en exploration pour retrouver les âmes, parce que dans les contes, il y a toujours un élément déclencheur qui force le personnage principal à partir de chez lui. Tout le long du jeu, nous rencontrerons des créatures merveilleuses, licornes, fées, elfes, esprits farceurs, mais aussi des animaux. Toutes les âmes que nous devrons récolter sont celles d'animaux. L'ours brutal, le serpent hypnotiseur, le faucon avide, le chat malicieux, le loup vorace, et bien d'autres. Le chat ressemble d'ailleurs à s'y méprendre au chat beauté, avec son chapeau à plumes et ses bottes évidemment. Quant au loup, on découvre celui-ci dans une taverne en train de harceler une jeune serveuse portant un chaperon rouge. Charles Perrault est dans la place. On remarque aussi que certains dialogues sont en rime, une caractéristique typique des fables ou encore des laits, cette forme poétique médiévale qui se présente soit sous forme narrative, soit sous forme lyrique. Pour chaque âme à capturer, l'histoire se déroulera comme une fable. On croisera tout du long des personnes victimes de l'âme méchante et nous lui ferons toujours payer sa mauvaise attitude en la piégeant à son propre jeu. Car rappelez-vous, contes et fables populaires ont souvent pour but de véhiculer une morale. Petit exemple, on rencontre un couple de meuniers ruinés à cause des taxes et du loyer qui augmente sans cesse et imposé par le baron propriétaire, le faucon. Le faucon menace de les chasser s'ils ne paient pas dans les temps. C'est sans compter l'arrivée de notre sorcière qui se renseigne sur ce qui pourrait satisfaire l'avidité du faucon. Il évoque alors l'histoire d'une fée alchimiste qui, lorsqu'on la trouve, nous offrirait notre poids en or. Après maintes recherches, on finit par trouver l'alchimiste en question et on lui fournit les ingrédients nécessaires pour qu'elle fabrique une gemme capable de transformer ce qu'elle touche en or. Cependant, nous indique-t-elle, cette pierre ne peut être utilisée que par quelqu'un dont le cœur n'est pas empli d'avarice. Munis de cette pierre, nous parvenons à redonner de l'argent aux paysans. Le faucon, voyant tout cet argent chez les meuniers, pense alors que nous sommes l'alchimiste et nous réclame de l'or. On lui tend alors la gemme enchantée, mais dès que le faucon la touche, il se transforme en statue dorée. Il aura bien obtenu son poids en or, mais pas comme il l'imaginait. Witchwood crée ainsi ses propres histoires en piochant dans tous ses imaginaires. On sent qu'une vraie attention a été portée dans l'écriture, avec des dialogues et des descriptions soignées qui ne sont pas encore évidents à suivre puisque le jeu n'est pas traduit en français. La progression de l'histoire est marquée par différentes quêtes, chaque âme à récolter suit un schéma identique. On a des informations à chercher en discutant avec les personnages, ils nous demandent systématiquement un objet pour les aider, une potion, un artefact ou un sort. L'aspect crafting est donc au cœur du jeu, il faut ramasser tout ce qu'on trouve, fabriquer des objets qui nous permettront alors de trouver d'autres ressources qui, à leur tour, nous aideront à créer de nouvelles choses. Le premier objet que l'on récupère d'ailleurs est notre grimoire avec toutes les recettes de fabrication qui se rajouteront au fur et à mesure. Cette boucle de gameplay ressemble au schéma récurrent dans les contes. Un personnage a un problème, on doit accomplir des épreuves qui correspondent ici à la recherche et à la création d'objets qui permettront d'arriver à un dénouement heureux. Sans parler du fait que la réception d'objets ou d'artefacts magiques est un leitmotiv des contes de fées. Je ne pouvais conclure sans mentionner les superbes illustrations faites à la main du jeu, il y a quelque chose dans les applets de couleurs qui rappelle les tentures médiévales, le jeu est vraiment très agréable à parcourir de ce point de vue, et je vous le recommande bien sûr très chaudement. Merci de m'avoir écouté.
Merci pour ta chronique, Lys. Et moi, je suis content que tu évoques l'aspect visuel pour terminer, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose d'un peu... Alors, peut-être pas complètement Disney, mais ça m'évoque un petit peu notamment toute cette végétation qui est très à plat. Ça m'évoque les vieux dessins animés où il y avait toutes les dessins animés Disney qui se fondaient sur des contes pour la plupart, dans les années 50, 60. Et je trouve que c'est un aspect du jeu qui renforce cet aspect conte, en tout cas.
Oui, la Belle au bois dormant. Ouais. Mmh, mmh. Même les personnages, par exemple, le chara-design du personnage qui est endormi, là, la jeune femme qui est endormie, elle fait vraiment penser un peu à une princesse Disney.
C'était très intéressant comme chronique. Maintenant, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et je me questionne aussi un petit peu sur l'aspect réalité des contes. Est-ce qu'il y a... Comment dire ça ? Est-ce qu'ils ont essayé d'être le plus proche que possible de ce qui est raconté dans les bouquins ? Ou est-ce que l'objectif est de tourner ça d'une manière un peu parodique ?
Je sais pas s'il y a vraiment un aspect parodique, mais j'ai l'impression en fait de voir plus des mélanges de contes que j'avais déjà lus, enfin d'histoires que je connaissais. J'ai pas retrouvé un conte précis en particulier, mais plus un mélange d'inspiration. Et après, oui, il y a un côté toujours un peu humoristique dans l'attitude, notamment de notre personnage, de la sorcière, qui se moque un peu et qui joue un petit peu sur parfois le sarcasme et l'ironie, parce que bon, souvent elle sait un petit peu ce qui va se passer. Mais après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une interprétation un peu parodique.
D'accord. Merci beaucoup, Lys.
Ça m'a fait penser, du coup, dans ta description, dans la description que tu fais du jeu, entre, comment dire, ces astuces d'écriture, ces illustrations peintes à la main, le fait que certains dialogues soient rimés, ce genre de choses, ça m'a fait penser à Child of Light, parce qu'il correspond un peu aussi à cette description-là, et lui aussi, très clairement, il cherche à pencher du côté du conte. Est-ce que... Quel parallèle tu pourrais faire entre les deux? T'as fait Child of Light aussi.
Oui, mais il y a plein de parallèles à faire dans les inspirations, je pense. Le fait déjà que Child of Light, il est complètement écrit en vers, c'est pas un hasard. Après, Witchwood, il y a certains passages qui sont écrits en vers, mais c'est pas toute l'intégralité du jeu. Il y a aussi une partie un peu plus narrative avec les pensées de la sorcière ou même des bulles de dialogue qui vont, enfin des bulles de texte qui vont juste expliquer en fait la situation. Mais les deux, en tout cas, sont inspirés de contes, de légendes, on va dire, qui sont connus, mais c'est pas à proprement parler des adaptations. Donc leur point commun, je dirais, c'est qu'elles reprennent en fait des formes et des éléments typiques des contes, mais en les réadaptant pour leur propre à leur propre sauce en fait, en quelque sorte.
Mmh. Ouais, je vois. Et du coup, j'aurais aussi une autre interrogation. C'est, t'évoques le crafting qui est au centre du jeu, d'après ce que tu nous décris. Est-ce qu'il y a aussi des phases de, parce que j'ai encore l'image de Child of Light en tête, du coup, est-ce qu'il y a également des phases d'affrontement, de combat, ou pas du tout? On est vraiment juste dans du dialogue avec les personnages et on n'est pas dans un rapport, disons, belliqueux avec les créatures et les personnages qu'on peut rencontrer.
Alors, on a une jauge de vie et on peut se faire attaquer par des créatures et on peut tuer des créatures aussi pour récolter des ingrédients sur elles. Après, je parlerai pas de combat ni d'XP, enfin, on a pas d'expérience par rapport à ça et c'est pas vraiment des combats finalement parce que le jeu a pas du tout été pensé pour ça. La vie, elle est même un peu anecdotique finalement parce qu'on se fait attaquer mais ça a pas vraiment de conséquences. Enfin, on perd notre vie, on recommence et puis, enfin, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais par contre, le fait que nous, on attaque les monstres, enfin, qu'on essaie de piéger en tout cas certains monstres en fabriquant l'outillage ou les pièges adéquats, là, ça a plus de sens dans ce sens-là. Mais par contre, ouais, il n'y a pas de combat vraiment d'affrontement proprement parlé, quoi.
Merci encore pour ta chronique, Lys, et il est maintenant temps d'écouter Cindy, dont la chronique avait été enregistrée au précédent enregistrement, et les échanges qui suivront datent aussi de cette captation-là. On se retrouve juste après.
Alors, à toutes et à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Cindy, et je vais vous raconter d'étranges légendes qui désormais font leur coming out. Écoutez attentivement, voici l'histoire des origines familiales du héros de Animal Crossing. Il était une fois... dans le petit village de la côte, une famille vivant dans une maison de tuiles rouges. Le plus jeune garçon de cette famille, et l'unique d'ailleurs, était connu du village pour sa longue et terrible maladie, un mal obscur qui lui coûterait la vie bien avant ses 18 printemps. Depuis sa plus tendre enfance, sa mère, qu'il appelait simplement « maman », a toujours été à ses côtés. Elle lui préparait de délicieux plats, lui brodait des coussins, et lui laissait de longs poèmes lors de ses absences. Et elle en avait, des absences. Car, en mer esselée, elle partait éponger son chagrin dans les bras de la voisine. Un chagrin que son époux, lui, ne voulait pas partager. Et parlons-en de son époux. C'était le père du jeune garçon. Ce dernier ne le voyait que rarement. Il faisait partie de ces pères trop absents, trop fuyards, ces pères trop faibles et fébriles pour affronter la réalité. Pour le jeune garçon, son père n'avait rien de tout cela. Il s'imaginait un homme travailleur qui, comme il aimait si bien le dire lui-même, ramenait l'argent à la maison. Le garçon savait toujours quand son père rentrait. Les petites clochettes à l'entrée sonnaient deux fois plus fort que d'habitude, car il aimait annoncer son entrée. Puis, il se déchaussait et allait voir son petit. Le garçon adorait ces moments-là. Il faut dire que son père lui ramenait toujours un panier de fruits. Toujours les mêmes d'ailleurs. Des cerises, des pêches, des pommes, des poires et des oranges. Puis il lui disait « Tu sais mon grand, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Papa a besoin de faire tourner son business pour te ramener de délicieux fruits. » Et le garçon acceptait. Que pouvait-il faire d'autre? Puis son père s'en allait. Et de nouveau, le jeune garçon se retrouvait avec ses centaines de peluches. Chaque jour, de son lit qu'il ne pouvait pas quitter, il rêvait de lieux paradisiaques, de plages, de petites collines enneigées. Il s'imaginait sur un bateau, en train d'écouter des balades, des lieux où il pourrait construire tout à son image, et pouvoir s'évader. Car il le sentait. Il était un poids pour ses parents, un vrai poids. À tel point que même le village se sentait obligé de supporter sa vieille famille. Comme si sa maladie avait été le fardeau non d'une, ni de deux, mais bien d'une centaine de personnes différentes. À chacun de ses réveils, le jeune garçon trouvait une nouvelle peluche à ses côtés. Les habitants du village lui en créaient une quantité incroyable, toute différente. À chaque jour sa peluche. Des lions, des cerfs, des moutons, des lapins. Il y avait là toute une cour. Pour le jeune garçon, il était temps de mettre fin à toute cette souffrance. Ce fut pourquoi un jour, à l'aube d'un nouveau réveil, les paupières du jeune garçon restèrent closes. Cependant, il ne quitta pas le monde des vivants avant d'assister à un dernier spectacle. Celui de ses parents, désemparés devant son inactivité. « L'argent était plus important que notre fils pour toi, » argumentait la mère. « Et toi alors, » répondait le papa, « tu crois que personne n'a vu ? L'amour était plus important que notre fils pour toi. »« L'amour, » crachait-elle, « l'amour c'est ce que tu as été incapable de lui donner, même de me donner. »« Ah, parce que pour toi c'était simple. C'est simple pour toi d'aimer la chair de ta chair, celle-là même que tu sais vouée à mourir avant toi ? Mais ce n'est pas une raison. » Pardonne-moi d'avoir souhaité me protéger, répondait alors son père. Mais te protéger de quoi? De ton fils? Non, disait-il, du traumatisme de le perdre, de vous perdre. Et c'est à ce moment-là que la mère répondait, et d'après toi, comment combattons la perte? Le père hésitait alors, fixant son jeune fils, attrapant la main de sa femme. Il soupira lentement et la serra avec force. Ensemble? Demanda-t-il hésitant. Il crut longuement que sa demande resterait sans réponse. Mais sa femme serra à son tour sa main en soupirant. « Ensemble, » répondit-elle. Et c'est ainsi que le jeune garçon, partiellement apaisé, rendit son dernier souffle, s'évadant à jamais dans un univers idyllique, peuplé d'animaux anthropomorphes. Mais ceci, mes alliés, est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Cindy, pour ta chronique. Je l'ai trouvé plus... comment dire... Bon, l'histoire est toujours aussi chouette, t'as un talent vraiment pour raconter les histoires, à croire que c'est ton métier. Et mais en revanche, j'arrive moins à mettre le doigt sur ce que t'as essayé de nous dire par rapport aux deux fois précédentes.
Alors, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai voulu changer un petit peu le format. Quand j'ai écrit cette histoire, j'ai beaucoup tiqué en fait sur le rôle des parents et sur le modèle de la famille, notamment dans certains jeux vidéo. Avec cette histoire de la mère, en fait, qui reste à la maison, et le père qui s'en va ramener l'argent. En fait, ça m'a beaucoup questionné sur le jeu d'origine dans Animal Crossing, qui dépeint, en fait, très souvent les parents dans des rôles assez traditionnels et typiques. Donc la mère très omniprésente, très affectueuse, le père très absent, qui n'écrit pas ou très peu. Et en fait, dans le jeu en lui-même, c'est exactement ce qui se passe. Et ça m'a questionné. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette histoire parce que je n'étais pas d'accord en fait avec ce que j'écrivais. Et je me disais en même temps pourquoi aujourd'hui les jeux continuent de prendre en fait ces décisions, pourquoi ils proposent du pur conventionnel alors qu'on a tellement de représentations diverses actuelles, pourquoi on ne nuance pas. Et en fait c'est un peu ça que je voulais critiquer avec cette histoire-là.
Et tu as des réponses à ton questionnement qui est de pourquoi les choses avancent pas de ce côté-là et pourquoi on reste un peu engoncé dans ces carcans
J'ai quelques pistes. Je pense que Animal Crossing est assez particulier étant donné son origine, que son créateur souhaitait un peu combler certains manques. Néanmoins, globalement, c'est un peu trop difficile. Hein. Ça, tout va dépendre de chaque jeu et de pourquoi en fait les studios décident de rester dans la facilité. Hein. C'est un petit peu la même chose, le même débat avec pourquoi on choisit un héros plutôt qu'une héroïne.
Ça me faisait aussi penser au personnage un peu de la mère dans Pokémon, que tous les Pokémon démarrent quasiment dans notre maison avec notre mère, et que c'est très rare en fait qu'on sache ce que fait le père dans les jeux Pokémon, donc ça me faisait penser à ça.
C'est assez récurrent effectivement d'avoir... notamment dans les RPG japonais tournés pour les enfants, entre guillemets, d'avoir des figures parentales qui sont absentes ou au contraire présentes, mais inutiles.
C'est maintenant à Alexandre de prendre la parole, et ce soir, Alex, tu nous parles des Gardiens de la Galaxie. Est-ce qu'on peut en conclure que t'en as fini avec Elden Ring ou pas du tout ?
Alors oui, effectivement, j'en ai fini avec Elden Ring, je l'ai désinstallé, et je compte pas y retoucher avant un moment. Même si le New Game Plus quand même m'appelle à chaque fois que je vois un tweet qui parle du jeu, mais je résiste. Difficilement, mais je résiste. Et aujourd'hui, effectivement, j'avais envie de vous parler des Gardiens de la Galaxie. Alors, pas le meilleur film du MCU, mais bien du jeu sorti en octobre dernier. Alors, soyons honnêtes, à l'annonce, j'étais pas très emballé, surtout après le four qu'a été Avengers, que tout le monde a d'ailleurs déjà oublié. Et bah, les Gardiens de la Galaxie, c'est ce que j'aurais aimé que Avengers soit. Un vrai jeu d'aventure qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, et qui a des moments de grâce qu'on n'attend pas forcément. Alors, pas dans son gameplay, qui m'a rendu incroyablement zinzin dès qu'il y a plus de 4,5 à l'écran, mais bel et bien dans son écriture. Et oui, on n'y pense pas quand on voit les derniers jeux d'Eidos Montréal, mais parfois ils sortent un jeu dont l'écriture laisse un bon souvenir. Il s'agira pas spécialement ici de l'intrigue principale, qui en elle-même respecte trait pour trait le combo de situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties et résolution. Non, ce qui m'a surpris ici, et sans spoiler puisqu'il me semble que Lys est en train de le faire, c'est l'alchimie entre tous les personnages de cette bande d'outcasts. Peut-être parce que c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans le film de James Gunn, je ne sais pas, mais Les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu rempli de petites lignes, de dialogues, de choix même, qui vont vous emmener à découvrir un peu plus vos coéquipiers et les rendre à chaque fois un peu plus attachants. Mais pourquoi tu nous recommandes un jeu au gameplay pas ouf, vous vous demanderez? Eh bien parce que contrairement à ce que veut vous faire croire la presse française, ce n'est pas tout ce qui compte dans un jeu vidéo. Et un gameplay moyen peut très bien être sauvé par une bonne écriture, ou même par ses graphismes, si c'est ça qui vous fait plaisir. Et pour rester chez Eidos, le dernier Tomb Raider, par exemple, n'avait que ça pour lui. Et Gardiens de la Galaxie, c'est très simplement un jeu feel-good. On apprend à connaître une bande de bras cassés qui essaient de faire de leur mieux dans des situations qui ne leur sont pas toujours favorables. Un peu comme dans ma vie, quoi. Mais merci de m'avoir écouté, et le mois prochain, on parlera de cinéma tout autant feel-good.
C'est quoi ce petit teasing, du coup, pour le mois prochain? Tu parles d'une autre adaptation de jeux vidéo, enfin, de films en jeux vidéo?
Non, je suis plutôt... parler d'une adaptation de jeux vidéo en film.
Ouh. Sujet souvent, souvent un peu tendu.
Sujet un peu tendu, mais je pense que... Je sais pas, j'ai pas encore revu le film en question, mais je pense que c'est quelque chose de bien. Donc voilà, surprise, surprise.
Ouais, parce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à jouer à... Et à le streamer, et je sais pas pourquoi j'appréhendais pas mal, moi, ce jeu avant de le lancer. Alors, moi, j'avais jamais entendu parler des Avengers avant, donc je partais pas avec, pas avec ces a priori-là. Mais non, pour l'instant, c'est une bonne surprise, je suis assez contente. C'est de l'aspect assez... Voilà, c'est de l'action à aventure, je dirais, assez classique, je dirais. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un jeu très vivant, parce que voilà, il y a sans arrêt des dialogues, des conversations de personnages. Je trouve qu'on est... Enfin, c'est assez agréable de rejoindre... ce petit équipage et de suivre leurs aventures. Et moi, je suis en train d'y jouer en version française, du coup, et il y a un travail de doublage qui est très, très réussi, je trouve. On sent vraiment que les acteurs, ils se sont investis dans ce doublage, et ça rend très, très bien. Par contre, je vois aussi ce que tu veux dire sur le gameplay dès qu'on a plus de 3 ennemis à l'écran. Je pense avoir à peu près... Je suis pas allé encore très loin dans le jeu, mais on voit que ça sature un peu, ouais, et que ça n'a pas été vraiment pensé pour ça, j'ai l'impression en tout cas.
Il y avait un truc qui m'avait particulièrement intéressé, c'est que quand vous parlez beaucoup des persos et du fait qu'ils sont attachants, etc. Et récemment, j'ai vu pas mal de discussions sur Twitter, des commentateurs qui voyaient qu'il y avait une certaine opposition entre le jeu occidental qui était souvent assez story, driven, donc les histoires étaient vraiment, il y avait une grande histoire centrale, etc. Et c'était beaucoup ça qui motivait les persos, etc. Contre le jeu asiatique, entre autres, qui était souvent assez character driven, ce qu'on voyait dans les RPG, mais par exemple ce qu'on voit dans Genshin Impact, qui est un jeu qui a un succès énorme, et justement ce genre, cette façon-là de voir est très très peu, est très très peu reconnu, on entend beaucoup moins parler du côté occidental, et on fait pas trop attention à ce qui se passe, notamment dans tout ce qui est jeu mobile, dans tout ce qui est, typiquement Genshin Impact, quand je sors en convention, je vois que ça, et c'est vraiment très sympa en termes de, ne serait-ce qu'en termes d'histoire, de perso et tout. Et voilà, je me demandais si c'était un truc où il commençait à y avoir des porosités, ou si on sentait que c'était vraiment un truc qui était justement plus pour retrouver des persos, pour les mettre dans des situations sympas, c'est ce qui a l'air en tout cas de ressortir de ce que vous dites.
Ouais, puis dès le début, il y a une espèce de connivence en fait qu'ils essaient de créer avec le joueur. On n'a pas vraiment d'explication, de présentation des personnages, où c'est assez sommaire, donc il y a un côté où ça se prend pas trop non plus au sérieux. Je sais pas si vraiment le jeu a la prétention de vouloir raconter, d'aller très loin avec ces personnages-là. C'est vraiment plus l'idée de les retrouver et de créer une sorte de connivence, j'ai l'impression.
Je trouve ça chouette que tu fasses cette chronique, parce que personnellement, j'avais un a priori super négatif sur le jeu, parce que j'ai détesté le film. T'es pas la première personne qui parle d'avoir Gardien de la Galaxie comme cette espèce de jeu feel good qui fait du bien, et je suis assez curieuse, sans aller jusqu'à y jouer, je pense. Mais...
si tu veux y jouer, il est dans le Game Pass, donc n'hésite pas. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est, si tu veux bien en parler, hein, c'est pourquoi est-ce que tu ne détestes ce film si viscéralement, a priori?
J'aime pas...
Chris Pratt.
non, c'est même pas Chris Pratt spécialement, je sais pas. Non, je pense qu'il y a beaucoup de clichés dans ce film que j'aime pas trop. Je trouve que c'est un film qui essaye vraiment beaucoup de se la jouer. Regardez les jeunes, on est trop cool. On met de la pop musique derrière des scènes violentes et on fait des blagues et tout. Et derrière l'histoire, je trouve qu'elle a aucun sens. Il y a rien qui a réussi à m'impliquer dans ce film en fait. Du coup, j'ai essayé de l'aimer. On me l'a beaucoup vendu et ça a été vraiment impossible pour moi. Donc je sais pas, j'ai dû passer à côté du truc qui a fait que c'était un film trop cool. Et après, je suis pas une fana des films Marvel, donc ça doit jouer aussi.
Ouais, je comprends. Je comprends parfaitement, mais pour le coup, c'est un peu justement comme dans le jeu, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est un jeu sur ses personnages plus que sur son histoire. Et je trouve que s'il n'y a pas d'attachement au personnage, c'est dur de rentrer dans le jeu ou dans le film. Je comprends ce que tu dis, moi c'est ce que j'ai ressenti sur le dernier Thor, donc voilà. Mais je vois et je comprends.
Bon, ça va, je me fais pas shamer parce que j'aime pas Marvel, donc tout va bien.
Ah bah non.
Ah non, mais Marvel c'est pas bien de toute façon, donc... j'ai dit que c'était le meilleur, pas que c'était bien.
exact, très très bonne nuance.
Est-ce le seul à sauver ?
Un débat pour une autre fois.
Merci beaucoup Alex pour ta chronique. Et avant de retrouver Clémentine pour l'entretien, il est l'heure de notre première courte pause musicale. On écoute You've Come Too Far, Ness, composé par Keiichi Suzuki pour Earthbound. Vous écoutez Une Heure des Pixels sur Radio Campus Paris et il est temps à présent de retrouver notre invitée du mois, Clémentine Plissonnier, pour notre entretien. Clémentine, rebonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va parler du handicap dans le milieu du jeu vidéo, mais pas à travers le prisme de l'accessibilité, qui est le volet le plus connu et le plus discuté en général, surtout dans les médias. On va plutôt adopter un autre angle d'attaque et se concentrer sur les questions de représentation. Mais pour celles et ceux qui seraient intéressés par la question de l'accessibilité parmi nos auditeurices, il y a plein de ressources en ligne. Vous pouvez jeter un œil au site de l'association Cap Game, par exemple. Et sinon, il y a un an, Héloïse Linossier a piloté un très chouette dossier sur le sujet dans le numéro 81 de JV Le Mag. Ceci étant dit, je me tourne vers toi, Clémentine. Mais avant même d'aborder la question de la représentation, je pense qu'il est important, pour commencer, de préciser de quoi on parle. Donc, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, définir en quelques mots, si c'est possible, ce qu'on entend par handicap. Ça me semble important à aborder, puisque lorsqu'on est une personne non concernée, lorsqu'on est une personne donc valide, on n'a pas forcément idée de toutes les réalités que la notion peut recouvrir. Et du coup, est-ce que, dans un second temps, tu peux nous dire de quelle manière t'en es venu à t'intéresser et à travailler sur la question du handicap dans le milieu du jeu vidéo ?
Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer de synthétiser ça. Déjà, donc le handicap, en trois mots, on pourrait le définir en disant que c'est le fait qu'une personne a des capacités différentes de ce qu'est la norme, et du coup, ou des besoins différents de ce que va être la norme. Et du coup, ça va impacter sa vie quotidienne. Donc, ça peut être à la fois sur le travail, sur les actes quotidiens, vraiment à la maison, aussi dans le relationnel, etc. Donc ça, c'est un peu la définition, on va dire, de l'État, celle qui permet d'obtenir des aides ou non, d'ailleurs. Il y a une petite nuance à apporter à ça, une nuance qui est vachement apportée par les militants et les militantes anti-validistes. C'est qu'on a deux façons de voir le handicap, deux perceptions. La première, c'est une perspective qu'on va dire médicale. Donc c'est une perspective qui considère que le handicap est causé par des problèmes de santé chez les individus. Donc très souvent, quand on a cette perspective médicale, on va considérer que c'est à l'individu handicapé ou à ses proches qui va revenir la charge de proposer des aménagements, de soigner la personne, en gros de la faire rendre conforme à la norme, aux personnes qui sont valides. Et notre gouvernement est très très là-dedans, contre certaines recommandations d'ailleurs de l'ONU qui visent plus à arriver à une considération de la perspective sociétale du handicap. Donc la perspective sociétale du handicap, c'est de dire qu'en fait, c'est pas, le problème, c'est pas qu'on a des individus avec des besoins différents, c'est qu'on a une société qui considère que tous les individus devraient avoir les mêmes besoins. Et donc, quand on a une perspective sociétale du handicap, en fait, on considère que le handicap émane d'une société qui norme les besoins. Et du coup, quand en tant que militant, on vise à ce que cette perspective-là soit plus reconnue, on essaye d'encourager les institutions, les entreprises, les gouvernements à procéder à beaucoup plus d'aménagement de l'espace public, par exemple, avec aussi des règles pour que le travail, les gestes du quotidien, etc., soient accessibles à plus de personnes avec plus de besoins différents. Donc je pense que vous voyez déjà à peu près vers quoi moi je penche, rien qu'avec ma façon de décrire les deux. Pour la deuxième partie de ta question, donc moi je me suis intéressée au sujet du handicap parce que je suis concernée par ce sujet, puisque je suis à la fois handicapée sur le plan physique avec une maladie chronique invalidante et sur le plan mental puisque je suis autiste. Et cette réalité-là, elle m'a vraiment frappée quand je suis entrée dans le milieu du travail, qui est un milieu extrêmement dur et inaccessible pour les personnes handicapées. On a une énorme majorité des personnes handicapées qui sont reconnues par notamment les instances gouvernementales qui vont avoir peu ou pas d'accès au travail salarié. Et donc c'est vraiment à ce moment-là, quand je suis arrivée dans l'industrie du jeu vidéo, que je me suis rendu compte que y avait un truc qui clochait. Pour moi, par rapport aux aménagements que je pouvais demander, mais aussi dans le jeu vidéo lui-même et de comment il représentait la réalité que je découvrais sous mes yeux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser au sujet. Il y a très peu de ressources là-dessus en français, et du coup j'ai trouvé ça important d'apporter la perspective d'une personne qui développait des jeux et travaillait sur le contenu, et pas seulement la perspective de personnes qui veulent consommer les jeux vidéo mais qui en sont empêchés parce que les jeux vidéo ne sont pas accessibles, pour avoir une forme de complémentarité.
T'évoquais du coup la question de la représentation, ça va être notre sujet. Entrons directement dedans maintenant. Dans le champ des médias, dans le champ de l'audiovisuel, si on met un peu le jeu vidéo à part, qu'est-ce qui fait différemment, mieux ou pire que les autres médias en termes de stricte représentation des personnes en situation de handicap? Quels sont les écueils dans lesquels tombent le plus souvent les jeux qui présentent des personnes handicapées? Est-ce qu'il y a des écueils ou des clichés propres aux jeux vidéo, ou en fait on est sur quelque chose d'assez, sur une sorte de continuum par rapport au cinéma, aux séries, à la littérature, etc.?
Je pense que la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que quand on parle de représentation de personnes handicapées, nos médias mainstream sont vraiment très peu avancés sur le sujet de la déconstruction, là où sur d'autres sujet, ça commence doucement. ce que le jeu vidéo ne fait pas bien ailleurs, c'est exactement pareil. Enfin, en tout cas, c'est pas pire ou moins bien. Ou c'est pas pire ou mieux, pardon. Du coup, là-dessus, il y a vraiment. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand je suis allée parler à des milieux militants au sujet du handicap, et je me suis rendu compte du décalage énorme qu'il y avait entre nos vécus et la façon dont on était représenté et l'exclusion totale qu'il y avait des personnes concernées quand il s'agissait de leur représentation. En fait, c'était vraiment flagrant, au point que tous ces médias-là, les personnes, dès qu'il y a une mention de handicap dans un média, c'est très fréquent de voir les personnes concernées éviter ce média explicitement parce qu'ils savent qu'ils vont être traités de manière extrêmement problématique. Et j'ai préparé quelques petits tropes, quelques petits écueils, comme on disait, que je trouvais intéressant de vous apporter pour vous donner un peu une idée de ce que c'est les problématiques qu'il peut y avoir dans la représentation des personnes handicapées. Une des premières que je voulais souligner, c'était ce qu'on appelle l'essentialisation des personnes handicapées. Donc c'est tout simplement le fait de réduire un personnage ou une personne handicapée à son handicap uniquement, et donc toujours lui faire aborder les problématiques liées à son handicap et jamais ses goûts, ses relations, ses objectifs dans la vie, etc. etc. Alors que la plupart des personnes handicapées, elles ont moyennant une adaptation à leurs besoins spécifiques, elles ont une existence d'être humain qui a tout ça, des relations, des objectifs, des goûts. Et donc ça, dans les médias, on le retrouve beaucoup, beaucoup. Et une des dérives de ça que moi, je constate vraiment, c'est que du coup, la seule manière pour les personnages ou les personnes représentées handicapées avec d'autres personnes ou personnages, c'est via leurs relations avec des proches qui sont valides. Et donc là, très souvent, on va mettre l'emphase sur ce que le handicap fait pour ces personnes valides, à quel point il et elle en souffrent, à quel point il et elle sont affectés dans leur vie quotidienne par ce handicap. Tous les récits de parents autistes quasiment qu'on peut trouver sont autour de ces thématiques-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément. Le classique mon fils pourra plus jamais marcher et je me jette dans les bras de X ou Y personne parce que ça y est, notre vie à toute la famille est ruinée à cause de ça. C'est vraiment des choses qu'on retrouve, mais vraiment systématiquement, quoi. À côté de ça, une autre chose dont je voulais un peu parler, c'était ce qu'on appelle en anglais l'inspiration porn. Donc c'est le fait de produire un média qui va être souvent extrêmement larmoyant, extrêmement sur l'émotion, et montrer des personnes handicapées avec des histoires inspirantes, soit parce qu'elles sont très sentimentales, soit parce qu'on a l'impression que les personnes handicapées vont dépasser leur handicap, qu'elles vont faire des choses que seuls les valides pourraient faire dans notre inconscient. Et donc ça, on en retrouve aussi beaucoup, beaucoup. Cette idée d'histoire très larmoyante dès que le handicap entre en jeu, c'est vraiment des choses qu'on retrouve beaucoup et dont se nourrissent énormément les médias parce que ça fait réagir, donc ça fait des belles histoires, entre guillemets, bien sûr. Et là, on a une dérive que je trouve très grave, qui est que on va beaucoup représenter le handicap avec une dérive qui va tourner autour du suicide de la personne handicapée ou de l'euthanasie de la personne handicapée. Donc ça, c'est des sujets qui sont très graves et qui reviennent très très fréquemment avec des thématiques comme le fait que je mérite pas d'eux, ou je suis un fardeau pour les autres, etc. etc. On va avoir beaucoup de thématiques comme ça. C'est des trucs qui peuvent paraître anodins si c'est juste dans des histoires, mais en fait, pas du tout. L'euthanasie, notamment d'enfants handicapés, des parents valides qui y ont recours, il y en a très très souvent dans les journaux. Hein. C'est des affaires qui existent dans le monde réel, et du coup, les représentations à ce niveau-là, elles justifient très souvent ce genre d'actes qui sont évidemment injustifiables. Enfin, je voulais parler d'un dernier cliché qui était tout ce qui était autour de la maladie mentale comme justification, comme explication qu'un personnage est dangereux. Donc, très souvent, on va associer la maladie mentale ou la neurodivergence à une forme de danger. Pour ça... Pour ça, j'ai un exemple qui m'est venu récemment, puisque je regardais la série Arcane sur Netflix. Et moi, j'ai été très choquée par la manière dont le personnage de Jinx était traité, puisque c'est typiquement un personnage qui rentre dans le spectre de la neurodivergence. Donc la neurodivergence ou la neuroatypie, c'est une espèce de mot parapluie qui désigne tout un tas de personnes qui ne rentrent pas dans la manière usuelle dont les personnes pensent, ressentent, vivent des habitudes, des décisions, etc. Dans ce spectre de la neurodivergence, on retrouve par exemple l'autisme, mais on retrouve aussi, comme c'est le cas de Jinx, le PTSD, c'est-à-dire le traumatisme en fait. Et moi, j'ai été très choquée de voir à quel point la seule raison pour laquelle le personnage de Powder ou de Jinx était représenté comme d'une violence qui est une violence entre guillemets de fantaisie en fait, de fantastique, parce que on voit bien qu'il n'y a rien qui fait qu'une personne peut être comme ça dans la vraie vie. C'est un trait de personnage qui est imaginaire. On va tout de suite le ramener à son traumatisme bien réel en fait. Donc là, on a clairement une association entre maladie mentale et danger en fait, et violence. Et ça, c'est des choses qui se retrouvent beaucoup, beaucoup. Il y avait un autre exemple de jeu vidéo qui est là plutôt pour le coup sur le trouble du suicide ou de l'euthanasie dont je voulais vous parler. C'était celui de la scène dans Life is Strange où Chloé se retrouve dans un fauteuil roulant et on vous demande, vous en tant que joueur, de l'euthanasier. Donc c'est une scène qui est extrêmement traumatisante et qui rentre complètement dans le trope de cette histoire de la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si je suis handicapée, ce qui est hyper essentialisant. Voilà, donc ça c'est des clichés qu'on va beaucoup retrouver et qu'on retrouve donc à la fois dans les jeux vidéo mais aussi dans tous les autres types de médias, d'ailleurs que ce soit des médias liés à la fiction mais aussi des médias de journalisme, des médias d'actualité et donc de traitement du réel.
Et en plus, d'après ce que tu décris, c'est non seulement ce sont des clichés. Alors, le principe d'un cliché, c'est qu'il est mauvais par essence, mais il y a peu, d'après ce que tu décris, de clichés, disons même positifs. Alors, ça, dans ce que tu expliques dans le champ de l'inspiration porn, pardon, c'est quelque chose qui est mauvais parce que voilà, ça essentialise les personnes handicapées qui devraient tous systématiquement surpasser leur handicap, etc. Mais c'est positif entre guillemets, alors que généralement tout le reste c'est des choses absolument atroces quoi. Si jamais on est en situation de handicap, c'est-à-dire forcément qu'on est dangereux ou alors que on ne devrait pas forcément avoir envie de vivre avec ça. Enfin, c'est des choses extrêmement traumatisantes qui sont décrites. Est-ce que avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu aurais des exemples, alors que ce soit en jeu vidéo ou même ailleurs, de médias, de, je sais pas, un film, un roman, de choses où le handicap est traité de manière vraiment correcte avec un point de vue éclairé sur la question.
Déjà sur la représentation positive, en fait très souvent, même quand on est dans de la représentation positive, c'est-à-dire voir le handicap sous un jour positif, en fait on va quand même rentrer dans des clichés. Donc très souvent ça va être l'histoire de l'inspiration porn, où ça va être des choses sur son handicap devient un super pouvoir. Ça c'est des choses aussi qu'on a pas mal qui reviennent, notamment j'ai regardé Ranking of Kings, qui est un animé il y a pas longtemps et qui fait complètement ça avec le personnage de Boji. Et sur les représentations qui sont plus justes, plus authentiques, en ce moment je suis en train de re-regarder Malcolm in the Middle, donc la sitcom des années 90 ou 2000, et je trouve que le personnage de Stevie est globalement plutôt bien écrit, parce que son handicap est là, on a quand même la vision de ses parents qui sont très angoissés, mais on les voit pas non plus angoissés comme désespérés, mais vraiment juste angoissés parce qu'ils s'inquiètent pour leur petit garçon. Et à la fois,
est-ce que tu peux faire un très très court rappel sur la situation de Stevie dans la série pour celles et ceux
Dans Malcolm in the Middle, donc le meilleur ami de Malcolm, le personnage principal, c'est Stevie. Donc c'est un petit garçon qui a à la fois des problèmes respiratoires qui vont vachement impacter sa diction, puisqu'il prend des respirations très très fortes entre chaque mot, ce qui parfois est un ressort comique, mais je trouve que c'est jamais fait dans la moquerie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et il est aussi utilisateur de fauteuil roulant. Donc du coup, malgré ça, le personnage de Stevie, il est montré plutôt comme un adolescent normal, qui a une vie normale d'adolescent, c'est-à-dire que il est montré en train de faire des blagues avec ses potes, en train de faire du sport, en train de regarder des comic books, en train d'aller à la salle d'arcade, en train de faire des fugues parce que ils font plein de conneries avec ses potes et tout ça. Donc je trouve que la représentation est assez juste, surtout à une époque où globalement quand on montre le handicap, c'est vraiment juste que voilà, c'est un personnage qui va être jeté à la poubelle et qui va juste être là pour montrer le handicap et faire des blagues là-dessus, quoi. Et Stevie, là-dessus, a plus de complexité. Donc récemment, je trouve que c'est un personnage qui m'a plu dans ce sens-là.
Ok. C'est déjà que Malcolm est une série vraiment chouette.
Oui, ouais, j'aime beaucoup
en
Malcolm.
En général, en plus, c'est vraiment très cool. Bon, c'est plutôt jeune, mais c'est vraiment très chouette. Et comme tu le dis, voilà, c'est pas parce que ça date déjà un peu qu'on ne pouvait pas déjà, à l'époque, faire des choses chouettes en termes de représentation.
Tout à fait.
Un problème spécifique qui va être lié aux jeux vidéo peut émerger lorsque c'est le protagoniste qui est en situation de handicap. Comme c'est généralement le personnage qu'on contrôle, on va de fait être amené à jouer son handicap et on peut se dire que ça pose problème. Pendant la préparation de l'émission, en réfléchissant, en lisant un petit peu et en prenant mes notes, j'ai pris conscience qu'un jeu comme Hellblade, par exemple, que moi j'avais beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup marqué quand il est sorti, et qui est en plus plutôt qui part, comment dire, avec de bonnes intentions, ce jeu propose de découvrir ce qu'est la psychose à travers toute une série de puzzles, des effets de mise en scène psychédélique, etc. Et quand on y réfléchit, c'est un peu gênant. Alors bien sûr, c'est pas le seul jeu à faire preuve de maladresse, disons, en dépeignant le handicap et en le faisant jouer. Je lui jette pas spécifiquement la pierre, mais du coup, ça me fait me poser une question. Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose du handicap à travers le gameplay, en s'y prenant correctement? Ou est-ce qu'il est préférable, voire impératif, d'écarter complètement la gamification des handicaps, quels qu'ils soient? Bon, c'est pas très nuancé comme question, j'avoue, hein, mais bon, c'est un peu pour...
C'est pas grave, je vais la nuancer, t'inquiète pas. c'est une question qui est très intéressante, puisque... moi, qui m'intéresse particulièrement en tant que game designer et personne handicapée, hein, c'est cette question de la gamification. Ce que je trouve intéressant dans la take de Hellblade, c'est qu'on a clairement une volonté de pédagogie, en fait, qu'on retrouve pas mal dans des initiatives qui cherchent à faire comprendre aux valides ce qu'est le vécu d'une personne handicapée. Par exemple, c'est ce que moi j'appelle un peu, c'est toutes ces expériences où on cherche à donner à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des interventions. Moi, je me souviens qu'à ma fac, ils avaient fait des interventions où ils vous mettaient des lunettes noires pour vous faire jouer. C'est très, très parlant que j'emploie ce lapsus. Pour vous faire expérimenter avec un parcours d'obstacles, par exemple, le vécu d'une personne malvoyante. Chez les militants et les militantes... handicapés, on essaye un peu de prendre du recul face à ça parce que pour nous c'est toujours un peu étonnant de s'imaginer qu'il faut arriver à faire vivre des scènes traumatisantes de psychose dans un jeu vidéo ou de faire mettre des lunettes noires à quelqu'un pour lui faire empathiser sur le vécu d'une personne handicapée. En fait, pour nous ça nous semble un peu étrange qu'il faille aller si loin pour créer de l'empathie envers nous, en fait. Donc, le sujet de donner à voir, il est complexe. Je pense vraiment qu'Hellblade l'a fait avec la meilleure volonté possible. Et en plus de ça, ils ont fait beaucoup de recherches, ce qui fait que pour moi, c'est plutôt un des jeux qui fait ça le mieux, puisqu'ils ont fait intervenir dans leur production aussi bien des personnes du corps médical que des personnes directement concernées pour leur faire raconter leur perception de la chose, mais aussi pour leur faire reviewer des contenus. Dans cette prise de position qui est une position pédagogique, on peut dire que c'est sûrement le moins pire moyen de le faire valoir. Moi, là-dedans, il y a toujours la question de qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de parler de psychose? Est-ce que tu étais directement concerné par la chose? Pourquoi est-ce que ça t'est venu comme ça? Est-ce que tu en avais entendu parler et que tu trouvais que ça rendait cool visuellement? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Pour moi, déjà, c'est pas du tout la même valeur quand c'est une personne directement concernée qui veut essayer de faire comprendre ce qu'elle vit, comme ça peut être le cas par exemple avec le jeu Depression Quest. Il me semble que c'est Zoe Quinn qui a développé ça.
Je crois que oui.
Oui, je crois que c'est ça. Donc Depression Quest, qui est un jeu qui essaye de faire comprendre aux gens ce que c'est la dépression dans la tête d'une personne dépressive, versus des développeurs qui ont décidé que la dépression c'était trop cool et qu'on allait le traiter aujourd'hui. Donc évidemment, je grossis le trait énormément, mais c'est un petit peu pour vous faire montrer que gamifier le handicap selon la personne dont ça vient, c'est déjà très différent en fait. Et donc, globalement, je dirais que ça, c'est déjà un aspect de la gamification qui se pose beaucoup de questions. Et ce n'est pas du tout ce que font la plupart des développeurs quand ils veulent traiter de handicap, et en particulier de santé mentale. Puisque la santé mentale, c'est un gimmick gameplay qui revient hyper fréquemment, notamment dans les jeux d'horreur ou d'épouvante. Avec très souvent, on a une petite jauge de santé mentale qui, donc, j'imagine, quand elle tombe à zéro, vous devenez fou et c'est game over. Spoiler alert, les gens fous n'ont pas game over en fait, ils ont juste une perception complètement différente de la réalité. Cette histoire d'utiliser le handicap comme une mécanique de jeu sans vraiment avoir cherché plus loin que juste « Ah, c'est trop cool, ça justifie mes jolies petites variables », là, pour moi, on est clairement sur des choses beaucoup, beaucoup plus problématiques. Et là, il faut vraiment se poser des questions quand on est réduit à faire ce genre de choses, quand on est game designer ou développeur, parce que c'est vraiment, ça fait des choses qui clochent, ça fait... Je vous garantis que quand la santé mentale des personnes baisse, elles ne voient pas des ombres de monstres loin, ou elles n'ont pas des jumpscares, ou elles ne perdent pas 3 points de dextérité, par exemple. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser et il y a vraiment des questionnements à avoir. Enfin, la gamification du handicap, c'est un sujet très vaste. Il y a des prises de position à avoir et il y a des choses qui sont clairement à éviter de toute façon, quoi.
Justement, tu parles de certaines choses à éviter, de recherches à faire, de questions à se poser. Est-ce que tous les problèmes qui concernent la représentation des handicaps dans le jeu vidéo et aussi leur gamification, est-ce que tous ces problèmes pourraient pas être réglés ou en tout cas en grande partie évités si des personnes concernées participaient plus peut-être à la conception des jeux? Alors c'est une idée et c'est un point de vue bien sûr un peu simpliste et un peu naïf, hein, mais souvent c'est une des réponses qui est avancée lorsqu'on parle de représentation dans le médium, et notamment quand on parle de représentation des femmes et des personnes trans, par exemple. Du coup, est-ce que raisonner de cette manière a un sens en ce qui concerne la représentation du handicap? Et cette question en amène nécessairement une autre, qui est celle de la place qu'occupent les personnes en situation de handicap dans l'industrie. En sachant que c'est un milieu qui est globalement assez hostile, ou très hostile même aux minorités, comment les personnes en situation de handicap parviennent à composer avec toutes les contraintes et les violences que ça suppose?
C'est des très bonnes questions. Donc tout à l'heure, quand je parlais de mon expérience, en fait, il faut bien avoir en tête que le handicap, l'entreprise, le travail pour les personnes en situation de handicap, c'est un milieu qui est très hostile en fait. En plus de ça, le jeu vidéo, par la façon dont on le produit, c'est-à-dire avec beaucoup de crunch, avec des heures avec des périodes très intenses, avec un côté relationnel très fort, avec des périodes vraiment épuisantes aussi au niveau physique, ça peut rejeter beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont essayé d'y arriver. Donc sur la question de la place des personnes, en fait, la place, elle est vraiment extrêmement minoritaire. Et ça, c'est vraiment déjà un problème dans le milieu du travail en général. Il faut savoir qu'en France, une entreprise qui va... une entreprise, normalement, a des contraintes avec des quotas de personnes en situation de handicap qu'elle doit employer. Et la plupart des entreprises choisissent de payer des pénalités plutôt que de respecter ces quotas. Et le jeu vidéo, là-dessus, n'est pas très différent. En plus de ça, j'ai l'impression que pour que vraiment embaucher plus, ça permette d'avoir plus d'impact sur les représentations, il faudrait les personnes soient plus sensibilisées aux problématiques de représentation qui existent déjà, puisque aujourd'hui, il y a une grande majorité des personnes qui ne comprennent pas réellement ce qu'est le handicap ou qui ne comprennent pas réellement les problématiques qu'il y a autour des représentations. Et du coup, parfois même des personnes concernées n'ont pas conscience de ces problématiques-là. Et parfois, et ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en étant aussi une femme dans le jeu vidéo, c'est qu'on a beau employer des femmes dans le jeu vidéo, si vous ne les mettez pas à des postes décisionnels, vous ne changerez pas les représentations des femmes dans le jeu vidéo. Et pour le handicap, le problème est encore plus important, puisqu'en fait, si vous n'arrivez pas à faire des aménagements, si vous ne permettez pas aux employés d'avoir des aménagements pour pouvoir non seulement rester dans l'entreprise, mais aussi monter les échelons de l'entreprise, vous n'allez pas avoir cet impact sur les représentations. Donc là-dessus, il y a vraiment un travail qui n'est pas juste un travail de peuplement, j'ai envie de dire, qui n'est pas juste un travail qui se fait dans les statistiques, mais qui est aussi un travail d'aménagement et de sensibilisation.
Donc en conclusion, il y a encore pas mal de travail à faire de ce côté. L'entretien touche à sa fin. Merci beaucoup pour tes réponses, c'était passionnant. Avant de passer à la seconde partie de cet entretien, où les autres membres de l'équipe pourront te soumettre leurs interrogations, nous allons faire une autre petite pause musicale. On écoute cette fois-ci un morceau choisi par toi, Clémentine. Il s'agit de Waltzing in the Rain, composé par Vincent Diamante pour l'OST de Sky, Children of the Light. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Clémentine pour la suite de l'entretien. Mais avant que je cède la parole à mes collègues, Clémentine, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots au sujet de Sky également, qui est un jeu développé pour celles et ceux qui ne le savent pas par Dead Game Company, à qui on doit Flowers et Journey notamment ?
Du coup, j'ai choisi ce morceau parce que je savais que l'entretien serait vachement autour de la logique et du militantisme. Et du coup, pour moi, Sky, c'est le choix du cœur. C'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps. Donc, pour vous décrire un petit peu le jeu, c'est un jeu d'exploration multijoueur, c'est-à-dire que vous allez explorer des zones qui sont des grands niveaux avec tout un tas de joueurs du monde entier. Et vous allez pouvoir avoir tout un tas d'interactions sociales avec ces personnes, comme faire de la musique, tirer des feux d'artifice, danser, trouver des nouveaux endroits ensemble, etc. C'est un jeu que je trouve vraiment hyper beau et agréable, qui repose aussi beaucoup sur la routine, ce qui me plaît beaucoup et ce qui m'apporte beaucoup, beaucoup de confort en tant que joueuse autiste. Et voilà, Sky, c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps. Quand j'entends cette musique, c'est vraiment la maison, parce que je la connais vraiment par cœur. Et ça me rappelle aussi beaucoup de très bons souvenirs que j'ai pu avoir. Dead Game Company est réputé pour révolutionner un peu les choses auxquelles il touche. Et donc, évidemment, quand il touche le multijoueur, ça fait vraiment quelque chose d'unique à nouveau. Et donc, quand vous jouez à Sky, vous allez avoir des moments limite aux larmes avec des gens à qui vous n'avez jamais parlé, avec qui vous avez juste échangé quelques expressions avec votre petit bonhomme. Ce que je trouve quand même assez unique. Et donc, c'est pour ça que c'est un jeu qui me plaît énormément.
Et maintenant, je cède la parole aux autres membres de l'équipe.
Déjà, merci beaucoup pour l'entretien. C'était super intéressant, super pertinent, etc. Enfin, voilà, c'était trop bien. Et ouais, tout au long de l'entretien, je voyais que j'ai vu pas mal de liens entre, d'écho entre ce que tu pouvais raconter au sujet de la représentation des handicapés et justement des choses qu'on observe au sujet de la représentation trans, que ce soit donner la parole aux pauvres parents qui souffrent beaucoup parce que leur enfant est handicapé, slash trans. Aussi le fait de mettre la personne dans les pieds d'une personne, enfin de mettre le joueur ou la joueuse dans les pieds d'une personne handicapée ou d'une personne trans, c'est aussi une interrogation qui a beaucoup eu dans le jeu queer il y a quelques années, et c'est intéressant de la retrouver là aussi. Et justement, il y avait j'avais une question du coup, un truc qu'on observe et sur lequel j'essaie de travailler aussi. Au niveau de la représentation trans, c'est que on voit que on commence à avoir une meilleure représentation trans et que ça demande beaucoup beaucoup d'efforts, que ça absorbe beaucoup beaucoup de notre énergie, beaucoup beaucoup de notre militantisme, etc., beaucoup beaucoup de notre attention, et que au final, dans les communautés trans, etc., il n'y a pas des changements de conditions de vie qui sont extrêmement visibles. Parce que c'est des communautés qui sont extrêmement violemment touchées par l'exclusion, par la précarité, par la pauvreté. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup ça dans les communautés handicapées. Il me semble que t'en parlais un peu en début. On l'a beaucoup vu, par exemple, quand le sujet de la déconjugalisation de l'AAH était venu au devant du débat. Et est-ce que justement c'est un truc sur lequel tu regardes un peu de est-ce que effectivement avoir cette bonne représentation va changer énormément des trucs dans les conditions de vie, est-ce que ça marche, etc., sur la question handicapée?
C'est une très bonne question parce que effectivement plus on travaille sur la question des représentations, plus on se rend compte que à mesure que les grandes entreprises, par exemple, vont s'approprier ces sujets-là, ils vont réussir à trouver des nouveaux moyens un peu twistés de faire de notre vie un enfer. C'est-à-dire qu'ils arrivent de faire. Moi, je le vois pas mal avec quand, par exemple, les femmes les créateurs et les créatrices racisés sortent du contenu qu'on essaye de promouvoir et tout ça, derrière on a toujours autant de scandales sur les conditions de travail, ce genre de choses dans des grandes entreprises. Et en fait ça, il y a une vigilance, je pense, très importante à avoir pour qu'en fait les représentations ne soient pas une façade, ne soient pas une espèce de nouveau pinkwashing des entreprises qui s'approprient quelque chose parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont pouvoir racheter leur image avec ça sans rien faire derrière. Et c'est pour ça que moi, je pense que le sujet des représentations, il ne va pas sans un énorme questionnement sur les conditions de vie, notamment dans l'entreprise, puisque les studios de jeux vidéo, c'est pas des artistes qui vivent uniquement de création et d'air pur, hein. Ce sont des entreprises qui doivent faire du profit et qui ont des salariés. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Après, on a quand même. Moi, j'ai quand même. Quand je travaillais sur l'inclusivité, notamment à Ubisoft, sur Just Dance, on avait quand même des stats qui montraient que les rôles modèles ont de l'importance, notamment pas forcément. Moi, j'avais pas de data sur, par exemple, l'effet que ça avait sur les personnes non concernées, mais par exemple, j'avais une data qui montrait que aux États-Unis, quand il y a Hunger Games qui est sorti et Brave qui est sorti à peu près en même temps, Rebelle en français, il y a eu énormément d'inscriptions de petites filles à des clubs de tir à l'arc. Donc c'est un petit exemple, hein, c'est un petit truc de rien du tout, on n'est pas sur les problématiques de discrimination grave qu'on peut subir quand on est une personne trans ou une personne handicapée, mais ça montre que pour un certain public, la représentation, elle est quand même importante. Donc ça ne peut pas être suffisant pour changer les problèmes de vie au quotidien, c'est absolument insuffisant, mais c'est loin d'avoir aucun impact en fait.
Il est temps de clore cet entretien. Merci encore à toi, Clémentine, pour
toutes ces réponses et toutes ces éclaircissements sur la question de notamment de la représentation du handicap en jeu vidéo. On passe à la suite et maintenant c'est au tour de Ash de nous faire sa chronique. Ash, c'est à toi.
J'ai été un peu bête. J'ai joué à Cyberpunk en me demandant dans quelle mesure ça allait être raciste. Je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Les grands méchants de Cyberpunk, c'est une méga corporation japonaise, Arasaka, régie par le code de l'honneur et dont les membres parlent avec un accent à couper au couteau, s'échangent un sabre de père en fils et ont pour garde personnel un samouraï ninja. On essentialise tous les japonais aux trois stéréotypes qu'on connaît, le racisme, voilà. Cet ensemble de stéréotypes racistes, ils sont apparus il y a quelques décennies dans le cyberpunk. Ils s'ancraient dans la peur d'alors, face au boom économique japonais, que le Japon fasse vaciller l'hégémonie américaine et que les grandes entreprises japonaises prennent le contrôle du monde. Et ça, c'est la moitié de cyberpunk. Et je comprends pas comment on peut encore donner le moindre crédit à des cassos comme CD Projekt Red. Maintenant, ça soulève une autre question. Tout ça, c'est donc des stéréotypes d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, dans les stéréotypes racistes, c'est la Chine qui a remplacé le Japon comme cette « menace jaune ». Et on peut presque se demander d'où ressort cet ensemble d'images et quelle fonction il a aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être, dans un des trailers de Cyberpunk, une fausse pub avait fait scandale. Fausse pub pour une marque de soda mettant en scène une femme trans avec une large érection, moulée par un body, et l'érection rappelle la forme de la canette. CDPR s'était rattrapé en disant qu'il voulait critiquer l'objectification des femmes cis comme trans. La question, c'est même pas de savoir si c'est sincère ou non. Parce que si cette image est révoltante, c'est qu'elle présente l'objectification des femmes trans comme une réalité. Que vous le vouliez ou non, que vous vous en fichiez ou que vous trouviez ça révoltant, les femmes trans sont objectifiées. On coupe toute réflexion possible sur pourquoi elles peuvent l'être, quels processus peuvent mener à ça, et toute possibilité donc de s'organiser contre ça. C'est juste comme ça, circuler, y a rien à voir. Et c'est aussi ça qu'il y a de révoltant dans les images de boomers avec tout le monde rivé sur son téléphone, ou les pires épisodes de Black Mirror. Ce n'est pas qu'ils ont raison ou tort, c'est qu'ils n'y voient rien d'autre que la réalité. Bref, on vit dans une société. Ce sont des images qui prétendent correspondre précisément à la réalité. Il y a une transparence parfaite des images, et la réalité en dessous en est réduite à la simple surface d'une image. Et c'est comme ça que tout se raconte dans Cyberpunk. On en avait parlé le mois dernier, Cyberpunk ne croit en rien. Il présente toute une série de problèmes, la pauvreté, la drogue, l'objectification, l'aliénation, mais il en déteste tout autant les coupables que les victimes. Et il déteste vraiment les femmes et les pauvres. Cyberpunk déteste cette réalité dégueulasse que le capitalisme a créée, mais on fait partie de cette réalité dégueulasse. On est réduit à la surface de cette grande carte postale apocalyptique. C'est pour ça que le jeu ne peut imaginer de solidarité, de défense collective. Tout ce qu'il peut proposer comme rébellion, c'est tout péter tout seul. Et ça s'ancre plus loin dans la conception du jeu. Quand les devs de CDPR évoquent les inspirations, la construction de sa direction artistique, ils ne parlent pas d'avoir voulu raconter quelque chose à travers le cyberpunk. Non, ils présentent un collage d'une quarantaine d'œuvres du genre et disent « Notre but, c'était d'évoquer chacune d'entre elles et tout à la fois ». Ainsi, le cyberpunk n'est plus un vecteur pour exprimer des réflexions, des questionnements, des angoisses, c'est déjà un ensemble d'images dans lequel on pioche, des images coupées de la réalité d'où elles ont été créées et réduites à une pure surface. C'est de là que viennent nos stéréotypes racistes sur Arasaka. Et on voit là-dedans ce mécanisme d'essentialisation des peuples déjà à l'œuvre. Et du coup, c'est encore pire quand on revient à l'angle du racisme. Night City, la ville de cyberpunk, se veut à l'image des métropoles multiculturelles à l'américaine, avec certains quartiers qui regroupent des communautés. C'est par exemple le cas de Pacifica, quartier haïtien tenu par le gang des Voodoo Boys. Contrairement à Arasaka, ils ne sont pas décrits avec un racisme agressif. Le gang semble fort mais juste. On évite l'écueil de leur faire jouer les mystérieux sorciers vaudous. Il y a même un côté petit père des peuples. Et comme dans chaque quartier, tout le monde a besoin de ce gang pour se défendre contre la violence des méga-corporations. Ainsi, Cyberpunk peint l'image d'une société en guerre perpétuelle entre ses différentes factions. Il pourrait porter là-dessus une vision intelligente, qui souligne les mécanismes d'oppression qui font que ces communautés se retrouvent ensemble et ont besoin de s'unir, comme c'est systématiquement le cas aux US. Seulement, c'est pas ce que fait Cyberpunk. Les Japonais se réunissent et agissent d'une façon parce qu'ils suivent leur instinct japonais, les Haïtiens parce qu'ils suivent leur instinct haïtien. Tous sont essentialisés de façon raciste. Et on aboutit non pas à des luttes contre l'oppression, mais à l'image d'une guerre inévitable entre civilisations, ancrée dans la nature des gens, comme on en retrouve dans les pires théories de l'extrême droite. Et ça, c'est parce qu'on a expulsé toute la profondeur sociale de ces problèmes. C'est parce qu'on a suivi ce chemin de les réduire à la transparence des images. Tout ça, ça a des échos très très actuels. Face au mouvement de libération noire aux US, face au mouvement contre le racisme et l'islamophobie en France, vous pouvez croire que ces gens se réunissent par nature, par instinct ethnique. C'est exactement ce que font les politiques français, qui passent leur journée à accuser de communautarisme. Ou vous pouvez voir que ces communautés ont besoin de se réunir et de s'organiser pour faire face à des oppressions communes, et que ces accusations servent à cacher ces oppressions et à étouffer ces mouvements. Cyberpunk choisit cette dernière option. Ce qui me fait peur, c'est que la plupart du AAA marche comme cyberpunk. On choisit un thème, le film de gangster, l'heroic fantasy, le cinéma de Kurosawa, ou même le fait d'être trans, et on l'utilise pas pour raconter quelque chose, on propose de vous immerger dedans. Il y a ce même processus des images coupées de la réalité et rendues transparentes, coupées de toute profondeur sociale, coupées de toute possibilité de changement. Et il faudrait réfléchir à l'essentialisme qui fonctionne derrière. En attendant, ce mois-ci, j'ai joué à Norco et à Citizen Sleeper, deux jeux touchant aussi à la science-fiction, qui parlent de réalités simples et dures, et qui le font en restant plein de silences et de mystères, en tentant de ramener cette distance entre les images et la réalité, de retrouver cette profondeur. Et face à un jeu dominant qui se veut toujours plus transparent, on voit que le jeu qui vient des marges, de Disco Elysium à Boreal Tenebrae, en passant par Kentucky Route Zero, If Found ou Heaven Will Be Mine, ce jeu des marges semble trouver refuge dans la résurrection du mystère et du silence des images.
Merci beaucoup, Ash, pour ta chronique et surtout pour ces superbes mots de fin au sujet du jeu vidéo des marges. Et je ne peux que aller dans ton sens en ce qui concerne Norco et Citizen Sleeper, que j'ai fait aussi récemment et qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et qui, eux, du coup, ne mettent pas le... Comment dire? Pour lesquels la science-fiction n'est pas qu'un simple décor, une toile de fond pour immerger le joueur dans un univers cool. Vraiment, ils se servent de... comme tu l'as dit, en fait, de ce contexte-là, pour raconter quelque chose de profond et de très beau. Merci encore.
Merci beaucoup, parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant comme chronique. Moi, je retrouve beaucoup ces problématiques de l'esthétique et du réalisme. En fait, j'ai l'impression qu'à mesure que le jeu vidéo franchit des sommets techniques et arrive à un réalisme pas possible au niveau graphique... Que c'est marrant parce qu'on a aussi une envie de montrer, enfin d'être réaliste à tout prix, quoi. Je sais pas exactement comment le formuler, mais en tout cas comme si en fait l'esthétique et l'immersion se suffisaient à elles-mêmes, en fait, et que il suffisait de choisir un thème ou de choisir un événement et puis de se placer dedans au milieu, et puis en fait ce sera réaliste et ce sera l'immersion totale. Et je trouve que c'est évidemment une erreur, puisque quand on travaille dans le jeu vidéo, on produit du média, on produit de la création, et donc évidemment qu'en fait on se positionne et qu'on ne sera pas sur le réalisme, même si on a l'impression d'entrer dans le photoréalisme. Et donc quand tu parles de cyberpunk et de juste emprunter à l'esthétique cyberpunk sans saisir que le mouvement cyberpunk, normalement il y a un message derrière, il y a un questionnement sur notre société, je trouve ça très parlant pour nos jeux actuels, où on a vraiment cette envie de réalisme et qu'on essaye de se débarrasser à tout prix de la politique, de notre discours, d'un discours sur la société qu'on veut surtout pas mettre derrière nos œuvres, en tout cas dans le AAA. Et ça renforce pour moi en tant que créatrice l'importance d'avoir un positionnement, en fait. On peut pas traiter un sujet de manière neutre, et c'est d'autant plus important d'assumer et de réfléchir sur son positionnement.
Je suis parfaitement d'accord sur ce côté réalisme, parce que derrière le réalisme, il cache beaucoup, comme de la même façon que les algorithmes qui disent juste « Ah, on va juste prendre des stats objectives et comme ça, on sera parfaitement objectif », alors qu'en fait, ils reprennent ils se basent sur des datas... sur des datas qui ont des gros biais racistes, sexistes, etc. Et du coup, on se retrouve avec des algos et du machine learning qui a ces biais racistes, sexistes. Bah, de la même façon, quand on dit « Ah, on va se cacher, on se cache derrière le réalisme », on reprend un peu ces biais, etc. Et voire même, voilà ce qui me fait peur, c'est que quand on reprend un thème qui est aussi qui a toutes ces critiques dans les cyberpunk, ce qu'on voit, c'est justement que ces critiques se mettent à se cristalliser et à plus Enfin, voilà, c'est ce que j'essaie de dire au fond de la chronique. Et du coup, je te rejoins complètement sur ce fait, voilà, de remettre au centre le positionnement et le bah, qu'est-ce qu'on va raconter, comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'on va utiliser dans le jeu, enfin, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, et ouais.
Ouais, merci beaucoup pour ta chronique, Ash. Ce que tu disais sur le jeu, je pense que tu l'as pas cité, mais tu pensais peut-être à Ghost of Tsushima ou peut-être plus récemment Trek to Yomi. Ça me fait penser à un article que j'ai lu il y a pas très longtemps, je crois que c'est de Victor Moisan, qui justement parlait de tous ces jeux qui se réapproprient des films, il parlait en l'occurrence des films japonais de Kurosawa, mais qui perdent en fait complètement le... Dans les films de Kurosawa, il y a très peu de scènes d'action en fait assez violentes. Enfin, en général, c'est plutôt, elle arrive plutôt en dernier recours. Et il expliquait que dans Trek to Yomi, visiblement, il y a des scènes d'action et en tout cas qui revendiquent le combat et la violence en permanence, et que esthétiquement, ça se revendique de ces inspirations cinéma. Mais que dans l'interprétation, dans le fond, finalement, le jeu vidéo est un peu à côté de la plaque et mériterait en fait de questionner peut-être un peu plus son rythme, sa mise en scène peut-être, je sais pas, et puis sans doute son propos.
Oui, je suis parfaitement d'accord que voilà, y a beaucoup du « Ah, on va s'immerger dans ces univers-là, maintenant qu'on a de l'interaction, qu'on a de la technologie, etc. » Et oui, au final, effectivement, il y a très peu de réflexion sur le propos en général, sur la façon dont on change le propos, etc. Et je suis parfaitement d'accord. Et en plus, ça peut avoir des côtés très très problématiques, typiquement la sortie toutes les polémiques qu'il y avait eu à la sortie de Sifu, où pas mal de commentateurs, de journalistes et de critiques qui s'étaient un peu révoltés sur certains aspects du jeu et de la façon dont ils voyaient dont ils seraient appropriés le Kung Fu, etc. Voilà, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, mais surtout, vous retrouvez, je pense, facilement les articles qui sont un peu tous en anglais, et c'est pour ça que j'avais voulu les reprendre un petit peu, donc voilà.
Merci encore une fois beaucoup à toi, Ash, pour ta chronique. Et maintenant, c'est l'heure du blind test, et c'est donc le moment d'accueillir Lazare. Salut Lazare.
Salut.
Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau parmi nous, c'était pas arrivé depuis la saison dernière. Et surtout, merci d'avoir préparé un petit blind test au pied levé, c'est vraiment sympa de ta part. Sur quelle thématique tu as prévu de nous tester ?
Et j'ai décidé de prendre la thématique des radios dans le jeu vidéo.
Alors en termes de radio, tu veux dire les radios, c'est-à-dire les radios de la hanche, ou plutôt...
Les radios.
Toutes les radios.
Toutes les radios.
Toutes les... Oui. D'accord. Dans toutes les concepts... Enfin, comment dire. Dans toutes les
dans
exceptions...
Dans tous les sens du terme.
D'accord, dans tous les sens du terme. Parfait. Eh ben, ok. Eh ben, voilà. C'est quand tu veux.
Nous commençons avec un premier jeu sorti en 2017. On that first day, after the
shaking started, I didn't think I'd survive. Days Gone?
Non. C'est un walking simulator.
Oh boy.
Enfin, il est associé au walking simulator.
Firewatch. Ah oui.
Non.
Ah non, même pas. Ah, ok. 2017. Hein.
On découvre les souvenirs d'une famille.
Ah, Edith Finch.
Ah, bien vu.
Yes.
C'est ça.
Bien vu, bien vu, bien vu.
Il s'agit en effet de What Remains of Edith Finch, développé par Giant Sparrow et par Annapurna Interactive. Il s'agit d'un extrait qui se déroule dans le bunker de l'oncle Walt, si mes souvenirs sont bons, où en fait, donc du coup, on découvre les souvenirs de ce membre de la famille qui s'est enfermé dans son bunker et qui est mort. Et au moment où on goûte une boîte de conserve de pêche. La radio se met en route et du coup la musique accompagne les pensées du personnage et qui raconte un peu ce qui lui est arrivé, comment il a fini ici et comment il a vécu ces dernières années seul dans son bunker. Deuxième jeu sorti en 2000.
Jet Set Radio.
Exactement.
C'est allé très vite.
Ouais, ah bah... c'était bien joué, très bien.
J'ai hésité très très fort et voilà, j'aurais pas dû.
Donc Jet Set Radio, sorti en 2000, développé par Smilebyte et édité par Sega. C'est un jeu dans lequel on incarne un groupe de graffeurs en roller qui doit prendre possession d'un territoire dans Tokyo en graffant, si mes souvenirs sont bons, le logo de leur groupe un peu partout dans les rues. Troisième jeu sorti en 2002.
Ooh, baby. It's 105 degrees in here. It's your soundtrack of love, FIFA 105.
Je connais trop.
GTA San Andreas.
Non.
Oh. Un GTA.
Oui.
Vice City.
Oui.
Alexandre joue à Pyramide.
C'est ça. Et en fait, il cherche la licence et après, il déroule les opus.
Non, mais c'est très bonne stratégie. Hein.
En effet, il s'agit de GTA Vice City, donc sorti en 2002, développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games. Il faut savoir que la série GTA est, je crois, historiquement la première à proposer d'accéder à des radios une fois que l'on conduit les voitures. C'est apparu à partir de GTA 3. Pourquoi Fever 105 ? Parce que c'est une des radios qui ont le plus marqué les joueurs et les joueuses. Que c'est devenu une référence dans l'univers, dans le fandom, et c'est devenu une référence de radio diégétique du jeu vidéo. Quatrième extrait, jeu sorti en 2014.
Pity ?
Exactement.
Attends, quoi ?
J'ai pas entendu la réponse.
C'était Pity.
Wow. Ah oui, ok.
Il s'agit en effet de Pity, enfin d'une des boucles de Pity, le teaser jouable de Silent Hills, sorti en 2014, développé par Kojima Productions et édité par Konami. En fait, il s'agit donc dans une des boucles, la radio est activée, et donc on entend cette news d'un homme qui a tué sa femme, et le speaker s'étend très longuement sur ce meurtre. On fait un bon saut en arrière, puisque maintenant c'est un jeu sorti en 2007.
Bioshock.
Ah, Portal 2. Ah,
oui. Oh. Non,
bien
Bioshock.
Vu, bien vu, Bioshock, ouais. Joli coup.
Donc oui, Bioshock, jeu sorti en 2007, développé par 2K Boston et 2K Australia, et édité par 2K Games. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on se plonge un peu dans la playlist qui est diffusée, donc qui sont des vieux titres, puisque le jeu se passe durant les années 60, et que Rapture est bloqué dans les années 50, donc qui sont des titres datant essentiellement du début du 20e, mais aussi du 19e, on se rend compte qu'en fait il y a certaines musiques religieuses, du gospel et ainsi de suite, et qu'il faut savoir qu'Andrew Ryan est anti-clérical et particulièrement anti-dieu, et en fait dans le lore du jeu on se rend compte que c'est la résistance qui aurait inclus ces bandes sonores dans la playlist de la radio, mais c'est dit vraiment en fond, puisqu'on ne l'apprend qu'en découvrant des caisses de bobines dans une des cages de la résistance. Sixième extrait, jeu sorti en 2016.
MGS5.
Titanfall ?
Ah non, c'est Halo 2 ?
Non.
Non, non, Halo 5, 1000, je sais
Halo,
pas. Ouais, c'est ça.
Halo DST.
Master Chief Collection, là.
Halo 4, Halo Reach ?
Non.
T'as dit quoi l'année ?
2016.
Halo Wars 2.
Non, c'est pas Halo.
Ah putain, c'est l'autre là, Destiny ?
Non.
Destiny 2 ?
Non.
C'est quelqu'un qui joue à Halo dans un jeu ?
Non. Pas... Non.
Mais qu'est-ce que
c'est
que
c'est clairement la bande son d'Halo. Hein.
Bah oui.
Ouais, c'est chelou.
Non, non, c'est vraiment la musique diffusée à la radio.
Ah ok, donc c'est un jeu Microsoft, donc c'est Forza Horizon ?
Ouais.
4 ? Forza Horizon 4 ?
Oh là là, il est fort.
C'était quoi l'année ?
C'est 2016.
Donc le 3 du coup.
Je vais vous accorder un point à les deux à Clémentine et Alex, parce que le morceau est aussi dans le Forza Horizon
3. Ah ok.
Mais cet extrait est tiré de Forza Horizon 3. La chaîne de radio qui diffuse cette musique là, c'est Timeless FM, qui est la chaîne de radio qui normalement diffuse de la musique classique. Alors j'imagine qu'ils sont partis du principe que Halo est un classique et que Halo est de la musique orchestrale. Rentre à peu près dans les programmations. Bon, c'est Microsoft, quand ils veulent faire des placements de produits, ils le font sans trop se poser la question. Mais le cas de Timeless FM est assez intéressant parce que c'est finalement une des radios de Forza Horizon qui est la plus écoutée, qui est très très appréciée de la part des gens et des fans, et que le fandom est particulièrement pointilleux sur les morceaux de musique classique qui sont sélectionnés dans chaque opus de Forza Horizon, au point de temps en temps de se plaindre de la disparition de tel ou tel morceau d'un opus à l'autre. Donc il y a un vrai débat, une vraie discussion et une vraie guéguerre autour de quel morceau de musique classique intégrer ou non à Timeless FM. Et donc, septième et dernier morceau, sorti en 2013.
Far Cry Blood Dragon?
Non,
c'est Surgeon Simulator. Ah.
Exactement.
Oh là là. Joli.
C'est sorti de très fond de ma mémoire.
C'est en effet Surgeon Simulator. Parce que comme tout bon chirurgien, on utilise des radios.
Bien joué.
Voilà, c'était un peu le troll du blind test. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, hein, bizarrement. Je me suis dit, je vais commencer par un troll. Je l'ai mis à la fin, du coup. Mais oui, donc ce jeu sorti en 2013, développé et édité par Bossa Studios, donc Clumsy Simulator, dans lequel on incarne un chirurgien qui doit effectuer des opérations dans tout un tas de conditions plus loufoques les unes que les autres. Je crois que c'est dans le 1 qu'il y a une opération dans une camionnette qui roule à une vitesse, donc avec des objets qui volent dans tous les sens. Et si mes souvenirs sont bons, c'est dans le 2 qu'il y a carrément des opérations dans l'espace. Et là, je m'en veux à mort parce que, bien entendu, je n'ai pas pris note des points.
Je crois que c'est Clémentine qui a gagné pour la deuxième fois.
Ouais. Ah ouais?
Exactement. Je crois bien.
Ah non, il y a peut-être égalité entre... Il y a peut-être égalité entre Clémentine et H. Puisque H, c'est toi qui as trouvé Edith Finch et qui a trouvé Jet Set Radio.
Tout à fait.
Est-ce que j'avais pas trouvé BioShock?
Eh oui.
Eh ben voilà.
Eh oui.
On a notre gagnante.
Eh ben donc voilà. Donc on a notre gagnante. C'est donc H qui remporte mon grand comeback.
Bravo.
sur les blind tests. Et donc le mois prochain, c'est Alexandre qui se charge du blind test.
Alors il faut savoir que hier pour nous sur le premier enregistrement, j'avais pas trouvé de thème et j'ai eu une illumination tout à l'heure. Je vais vous faire pour la dernière émission de la saison. Double ration blind test, puisque ce sera des mash-up et il faudra deviner les deux morceaux qui les composent. Du coup, des mash-up de jeux vidéo.
Ok, ambitieux, mais très cool.
J'ai déjà toutes les musiques très très cursed, donc tout va bien.
J'ai pas hâte. En tout cas, merci beaucoup Lazare pour ce blind test qui était ma foi très chouette et surtout qui était réalisé en un temps record. Et il est temps pour nous de conclure et d'arrêter là, déjà. Vous avez du coup écouté Une Heure et des Pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent pour la sélection des intermèdes musicaux. Un grand merci du coup à Lazare, donc non seulement pour ce blind test, mais aussi pour la réalisation et le montage de l'émission. Merci à toute l'équipe pour ces fantastiques chroniques, et bien sûr, merci encore à toi Clémentine d'avoir honoré notre invitation. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous, et on espère que tu as passé un bon moment.
Bah super moment pour moi, donc merci beaucoup pour l'invitation.
C'était trop bien, on a tous beaucoup apprécié. Bonne fin de soirée à toutes et tous. On vous donne rendez-vous le dimanche 12 juin pour le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien.